sur l'invité du jour.
Nous l'annoncions dans le sommaire, King Josaphat Chowa est avec nous ce matin, vice-champion du monde de Scrabble francophone, épreuve classique et 4 fois champion d'Afrique en 4 participations. Il a bien voulu accepter cette invitation, d'ailleurs nous lui disons merci pour cela. Bonjour King Josaphat Chowa et bienvenue dans la vibe du game.
Bonjour Tina, bonjour à vos nombreux auditeurs et merci pour l'invitation.
Voilà, là avant de... On va écrire des lettres ce matin, des mots. Et les mêmes mots que j'ai envie de poser, les premières questions, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quel est le souvenir le plus vif que vous avez de votre premier contact avec le Scrabble, ce contact qui vous a vraiment donné envie de commencer de manière professionnelle, ce moment où vous vous êtes dit, ce n'est pas juste un jeu, j'ai envie d'en faire ma discipline.
Ok. Alors c'est en deux temps, parce qu'il y a le contact avec le jeu Scrabble, il y a le contact avec le monde de la compétition. Et j'aime beaucoup raconter le contact avec le jeu parce que c'est un peu hors du commun. Donc, un oncle, j'étais dans la petite ville de Monatélé à 90 km de Yaoundé. J'étais en terminale, j'attendais les résultats du baccalauréat. Et pendant ces grandes vacances-là, un oncle était de passage à la maison. Et dans la ville où il résidait, il avait pour habitude de jouer au Scrabble avec ses amis. Et ça lui manquait un peu. Donc il s'est dit pourquoi pas apprendre le Scrabble à mes neveux. Malheureusement, les parents trouvaient que non, c'est trop cher d'acheter une grille de Scrabble et tout. Donc il a pris celui de dessiner une grille derrière un calendrier avec des feutres, de commander des jetons en bois auprès d'un menuisier. Et en quelques jours, on a commencé à jouer Scrabble. Ça m'a plu, ça m'a intéressé, j'ai accroché directement avec le jeu. Déjà que j'aimais beaucoup les langues et la combinatoire, le fait de mélanger les lettres, de chercher des mots, j'aimais beaucoup ce genre de jeu. Et donc, quelques années plus loin, 3 ans plus tard, 4 ans même plus tard, je découvre qu'il existe un monde de compétition dans le Scrabble. Donc, entre-temps, quand j'avais l'occasion de jouer au Scrabble avec mes amis, entre amis, enfin, en famille et avec des amis, j'étais souvent le meilleur. Donc, je me croyais très fort et je découvre qu'il existe une fédération nationale qui a des clubs. J'intègre un club à Douala où j'ai suivi mes études ensuite. Et étant en stage à Yaoundé pendant les grandes vacances, je vois l'annonce d'un championnat national en balle-maillot. Je me dis, ok, c'est à côté, donc je vais y aller ce week-end-là et je crois que je vais gagner. Première grosse désillusion et premier souvenir vraiment vif. J'arrive, je me présente des grands joueurs, des champions, je vois des trucs qu'ils jouent, je me dis mais à quel moment ils ont appris ce genre de mots. Et je termine bon dernier. Et voilà.
Je crois que
c'est ça. Grosse désillusion, mais j'ai un mental de combattant, je suis assez résilient. Au lieu que ça me décourage, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en tournoi pour leur première fois, ils jouent mal et puis ils ne viennent plus. Ils sont frustrés. Moi, ça m'a donné la rage. Je me suis dit, ok, je me donne 3 ans pour être champion d'Afrique. Non, je me suis donné 3 ans pour être champion d'Afrique, ça m'a pris 5 ans, mais j'y suis parvenu. Donc c'est ça vraiment, le fait de se dire je viens avec des ambitions très élevées et je me retrouve là et je me dis je vais utiliser ça comme c'est un tremplin, je vais plutôt bondir là-dessus, me former, apprendre des mots. J'ai causé avec tous les champions, ils m'ont donné des stratégies, je suis allé, j'ai bossé, j'ai créé un logiciel moi-même pour m'entraîner et à partir de là, voilà.
Ah, c'est une très belle histoire. Un premier échec qui vous a vraiment donné l'envie de tout donner. Vous êtes donné 5 années pour revenir plus fort et remporter le titre de champion d'Afrique. D'ailleurs, un titre que vous avez remporté 4 fois. Donc, ça veut dire qu'en 5 ans, vous êtes préparé. Donc, quand on parle de sport, les gens pensent trop physique. Mais là, on est dans un sport qui est vraiment intellectuel, le sport mental et tout ça là. Quelle est la préparation qui accompagne des compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde? Comment vous vous préparez mentalement pour arriver à vos fins?
Alors déjà, il y a toute une saison. Donc, les championnats d'Afrique et du Monde ne sont pas les seuls championnats qu'on dispute dans la saison. Donc, on a déjà l'occasion de se préparer sur des petits tournois qui sont un peu des tournois de sélection. Parce qu'au niveau de la FEDE, il y a ce qu'on appelle les simultanés panafricains, les simultanés mondiaux qui se jouent dans plusieurs pays dans le monde. Et en fonction des résultats des classements, déjà on s'aguerrit pour les grandes échéances. Et on a un classement de la saison. Donc ça nous permet déjà de nous préparer au grand tournoi. Après, il y a aussi l'encadrement qui est juste remarquable parce que la fédération met à la disposition de l'équipe nationale des joueurs sélectionnés au thème de la saison un coach, un préparateur physique, psychologique. Donc il y a un DTN, un directeur technique national. Déjà, je leur fais un gros coucou.
Coach Bahanak, je salue aussi ce matin.
Bahanak, l'homme à la casquette orange, le DTN Yamga. Donc on a un encadrement, mais le Scrabble, comme toutes les disciplines intellectuelles et même physiques, il y a d'abord l'investissement personnel du joueur. Donc, il faut s'entraîner en fonction de ses objectifs. Moi, je savais dès le départ où je voulais arriver. Donc, je mettais les bouchées doubles à l'entraînement. J'ai fait des choses vraiment folles. Je n'ai pas le temps de tout...
Bon, une seule chose folle.
Comme ce logiciel que j'ai créé pour m'entraîner et avec lequel j'ai, en quelques mois, gobé l'essentiel du vocabulaire qu'il faut. Ce qui prend parfois des années et des années.
C'est un logiciel qui vous propose des mots.
Oui, je vais vous faire une démo si vous voulez tout
à
l'heure.
Oui, on veut bien tout à l'heure. Ouais. Pourquoi pas maintenant, puisqu'on va forcément évoluer. Une démo avec le logiciel qui vous aide à travailler au quotidien. Parce qu'il faut dire que des mots, vous en connaissez.
Ouais, là, par exemple, j'ai mis des mots de 7, des tirages de 7 lettres. En fait, pourquoi 7 lettres? Parce que quand on pose un mot qui utilise les 7 lettres, on a un bonus de 50 points. Donc, en priorité, je m'entraîne sur des 7 et 8 lettres.
Okay.
Parce que c'est ça qui donne souvent beaucoup de points et qui fait perdre aussi beaucoup de points.
Okay.
Donc là, par exemple, orbite plus un i. Si j'ai orbite devant moi et j'ai un i en plus, je vais faire boîtier. Quand j'ai raout, qui est déjà un mot plus g, je fais des ragouts. C'est le même. Ah oui, ça, c'est le même qui va revenir. Attendez, ce que je vais faire, je vais avancer ça. Parce que il y a eu un petit bug dans le jeu. Voilà. Mm-hmm. Je vais juste relancer ça rapidement.
D'accord.
Je vais faire 10 tours en 10, maxi 10 secondes par.
Ok. Dites au maxi 10 secondes, je crois que c'est le blitz qui se joue aussi rapidement.
Oui, le blitz, c'est 60 secondes par coup. En fait, okay. Moi, je me mets des limites vraiment très contraignantes pour que quand j'arrive en tournoi, ça devienne plus facile. Mm-hmm. Donc, je me donne 10 secondes pour trouver des mots. Là, axeron. Là, le verbe donner donne un T. Là, réarmer. Là, écacher. Qui veut dire écacher? Ils n'ont pas mis la définition, mais. Mm-hmm. Là, la toundra, c'est une végétation, formation végétale des pays, froid. Ça, c'est la migale, des migales au pluriel, kiffiant, verbe kiffer, plus.
Le verbe kiffer, je ne savais pas que...
Ouais, et là, c'est acolyte, ça s'écrit acholi, ça s'écrit acolyte.
Ok.
Donc là, j'ai eu 10 sur 10. C'est un peu comme ça que je m'entraîne. Je fais 500 tirages, 1000 tirages par jour quand j'ai le temps et en fonction de différents critères aussi. Mm-hmm. Les 7 lettres, 8 lettres et maintenant, je bosse les 9 lettres qui sont un peu plus rares mais qui peut faire... En fait, un tournoi peut se jouer sur des 9 lettres.
Ok. C'est quand même un gros investissement, autant émotionnel que financier, que mental, en termes d'énergie. Quels sont les sacrifices que vous avez dû faire, parce que vous avez dû en faire pour atteindre ce niveau?
Ça, je ne vous le fais pas dire. Ouais, pour jouer à un tel niveau... En fait, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce genre d'objectif. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui m'a poussé à me fixer ce genre d'objectif, mais j'ai dû en baver quand même. J'ai dû consentir à des sacrifices qui, peut-être, ne vont pas complètement payer. Je veux dire, c'est peut-être sur le long terme et peut-être pas, mais je veux dire, c'est une belle aventure humaine. Par exemple, KJC, à la base, est ingénieur en informatique.
D'accord.
Donc, mais ça fait... 2 ans, 3 ans que j'ai mis ma carrière d'ingénieur en informatique un peu en suspens pour participer à des grands tournois pour ma guérir parce que je me suis fixé l'objectif d'être champion du monde.
D'accord.
Et ça s'est joué à peu cette année, vice-champion du monde. Mm-hmm. Mais c'est pas pour dire que j'ai perdu la main du côté de ma carrière d'ingénieur en informatique. C'est juste que je me suis consacré à temps plein pour un moment au Scrabble et je ne sais pas combien de mois ou d'années je vais le faire ainsi, mais voilà, c'est l'un des sacrifices. Par exemple, il y a aussi le choix de ma localisation géographique parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs Scrabble qui préfèrent aller jouer sous d'autres horizons. Mm-hmm. Moi, j'ai fait le choix de jouer au Cameroun.
Tu restes au Cameroun.
Je reste au Cameroun. Mm-hmm. Voilà, donc c'est choix, sacrifice, je ne sais pas. Pour moi, je pèse le pour et le contre et en fonction de mes objectifs de vie, en fonction de ce à quoi je pense être appelé par Dieu parce que je fais confiance à mon créateur aussi. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça. Donc, on peut voir des sacrifices, mais d'autres peuvent y voir juste des choix.
Ok, d'accord.
De vie.
Alors, on aimerait un peu entrer dans votre univers de compétition. L'instant d'une minute, vous êtes face à votre chevalet, le temps presse et la partie est serrée. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'état mental dans lequel vous vous trouvez pendant les secondes cruciales? Est-ce que c'est l'instinct qui parle, le calcul, ou bien alors que c'est l'entraînement qui prend le dessus en compétition?
Ça dépend de la variante. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux variantes au Scrabble de compétition. Il y a le Scrabble classique où j'affronte un adversaire, où j'affronte plusieurs adversaires sur plusieurs rondes. Et il y a le Scrabble duplicate où nous sommes nombreux, nous mesurons à la perfection à l'ordinateur et on évalue la performance en pourcentage. Donc, dans le Scrabble classique, le fait que je joue contre un adversaire, et il y a un peu de facteur chance parce que je ne sais pas quelle lettre il a, on pioche chacun des lettres différentes au sac, chacun a tour de rôle. Donc, je ne vais pas réfléchir de la même façon. Et en fonction du niveau de l'adversaire aussi, en fonction de la complexité du coup, parfois il faut y aller à l'instinct, parfois il faut être très analytique, prendre du temps. L'avantage en haut classique, c'est pas comme cet homme pense, c'est pas qu'on dispose de, par exemple, 1 minute ou 2 minutes par coup, non. Au classique, on dispose de 20 minutes pour toute la partie. Ça veut dire que dès que c'est un coup, je peux les jouer très vite, en 20 secondes. Et c'est un coup, je peux prendre mon temps. Donc, quand j'ai validé mon coup, je tape le chrono, ça enclenche le chrono de l'adversaire. C'est un peu comme les temps de parole dans les discours. Donc, je peux gérer mon temps sur toute la partie. Du coup, c'est un coup, je peux prendre plus de temps, mûrir ma réflexion. Et c'est ça qu'il faut faire dans ce genre de situation.
Okay.
Maintenant, au duplicate, quand c'est le blitz, la variante la plus rapide, parfois le temps passe tellement vite. Parfois, on dit, au moment où la sonnerie retentit pour écrire sa solution, tu n'as encore rien. Et là, il faut surtout pas perdre son sang-froid. La clé, c'est d'avoir toujours une solution de repli. C'est-à-dire, en temps, du coup, je répète déjà une solution. C'est-à-dire que si j'ai rien, je vais envoyer ça. Parce que je dis toujours, même à mes jeunes apprenants, je le dis toujours, un point vaut mieux que zéro.
Oui.
Même si j'ai vu un coup qui donne un point, je le note d'abord sur mon brouillon. Et je continue à chercher mieux. Comme ça, au moment d'écrire, au moins, j'aurai quelque chose. Parce que si j'en vois rien, j'aurai zéro pendant que les autres vont marquer des points. Donc, c'est ça. Il faut garder son sang-froid, mais le jouer, voilà. Être concentré. Mais c'est surtout la préparation. C'est en fonction de son niveau de préparation qu'on arrive à bien gérer aussi les coups.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours sur volume 3. L'émission, c'est Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport. Et nous sommes avec King Josaphat Showa. Et on poursuit cette interview juste après Sportsimus.
Zoom sur l'invité du jour.
Et nous entrons dans la deuxième partie du Zoom de ce samedi. Quel est le mot, King, qu'agissez, ou le non-mot que vous regrettez le plus d'avoir posé dans votre carrière? Et aussi, dites-nous comment vous avez fait pour évacuer la frustration d'une erreur et vous reconcentrer immédiatement sur la partie suivante.
Alors, j'aimerais répondre encore en deux parties.
Oui, on
donc,
est là.
Une partie un peu fun et une partie qui est mon expérience personnelle.
Okay.
Une partie un peu fun, c'est pour introduire la notion d'anagramme. Donc, les anagrammes, c'est quoi? Au Scrabble, quand on bosse les mots, on apprend ce qu'on appelle les anagrammes. Les anagrammes, ce sont des mots qui peuvent s'écrire avec les mêmes lettres, donc dans des ordres différents. Par exemple, le mot dispute, c'est l'anagramme de stupide.
D'accord.
Donc, je dis souvent à mes apprenants, ne faites pas de dispute, c'est stupide.
Oui.
Comme ça, on retient. Donc, il y a l'un de ces mots, quand ça fait partie d'une vidéo culte sur Internet. Imaginez qu'on ait les lettres suivantes. On a un C, un I, un L, un E.
C-I-L-E.
Un O.
O.
Un L.
L.
Encore, et un U.
Okay.
Donc, on a toujours cette lettre devant soi. Et ça fait partie d'une vidéo culte. Hein. C'est un gars qui joue au Scrabble avec sa grand-mère et il a peur de la choquer. Parce que lui, le mot qu'il trouve, c'est ça. Il trouve le mot.
D'accord.
Mais comme il est un bon Scrabble, il s'est dit non, je ne vais pas le jouer.
Oui.
Je ne vais pas choquer ma mamie. Je vais jouer l'anagramme qui est Luciole.
D'accord. Ok, bon, on va le dire à nos auditeurs. Hein. Je pense qu'on a des auditeurs responsables. Le mot qu'ils trouvent, c'est le mot couille.
Ouais.
Mais finalement, ils décident. C-O-U-I-2-L-E. Mais ils décident, pour ne pas choquer sa grand-mère, de jouer Luciole. Ouais, c'est malin.
Mais après, si tu es au championnat du monde et que couille, c'est le mot qui va te faire gagner,
tu
le joues.
Hein.
On n'est pas là pour. Voilà. Donc, maintenant, ma propre expérience, c'est festival d'Aix-les-Bains, l'an dernier en France. Je suis quatrième avant la dernière partie de... C'était quoi? Les parties originales. Et je suis au top de l'ultime manche. Qui est, donc, quand je dis que je suis au top, c'est-à-dire que je suis le seul joueur sur plus de 700 joueurs. Je suis le seul joueur encore au même score que l'ordinateur, après 10 coups. Et on arrive dans le money time, on arrive vraiment à la fin de la manche. Je peux être sur le podium au final si je continue à bien jouer. Et il y a un coup qui... Ça m'a glacé quand je l'ai raté parce que le mot qu'il fallait jouer, c'est chéquier. Donc un chéquier, C-H-E-Q-U-I-E-R.
Yeah.
Moi, j'ai vu chèque pour 78 points. Et j'ai vu chèque 78 points. Oh, chéquier faisait 253 points.
Et tu
donc quand tu envoies 78 points et quand on te dit que le top fait 253 points. Sur un seul coup, tu as perdu plus de 100 points. Tu as perdu 150 quelque chose de points alors que tu étais devant tout le monde. Mm-hmm. Donc, mon sang a fait un tour. Je me suis glacé direct et je me suis retrouvé 18e dans tout le monde.
Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous manquiez le I, le E, le R?
Parce que j'ai joué de façon très académique. Parce qu'en général, quand on a Q, on a tendance à vouloir mettre sur une case double. Mm-hmm. Donc, chèque. Ça faisait Q-U-E-S comme ça. Mm-hmm. Et ça me faisait 78. J'étais content parce que j'ai préparé la rallonge tchèque. Parce que quand on a joué un tchèque, on peut mettre un T derrière pour faire un tchèque habitant de la Tchéquie. Mm-hmm. Et j'étais tellement euphorique. J'ai pas vu que je pouvais juste décaler Q, ne pas doubler et faire tchèquier I-E-R.
La frustration derrière.
C'était frustrant. Mais ça fait partie de ce qui fait grandir le joueur. Mm-hmm. Il faut pas s'arrêter sur un échec. Il faut. Mm-hmm. Voilà. C'est ça.
Okay. Blitz, classique, duplicate, tout ça, je pense que ça demande des performances différentes. Mais est-ce que ça demande des personnalités différentes?
Un peu oui. Enfin, il y a du oui, il y a du non.
Ok.
Pourquoi? Parce que après tout, c'est du Scrabble. Mm-hmm. Donc, il y en a qui disent Scrabble, il y en a qui disent Scrabble, qui francisent un peu le mot. Mm-hmm. Mais après tout, c'est du Scrabble. Donc, les qualités qu'il faut pour être un bon joueur de Scrabble, on les retrouve. Il faut les mêmes qualités pour être un bon joueur de Blitz, pour être un bon joueur d'élite.
Est-ce qu'il y a une variante qui a plus de contraintes psychologiques que l'autre?
Justement, oui. Okay. C'est la variante classique. Justement, le tournoi que nous jouons depuis hier, d'ici à Douala, du côté d'Aqua, c'est mm-hmm. pourquoi je suis venu, mm-hmm. C'est un tournoi de classique. Mm-hmm. Et justement, ce tournoi, enfin, dans la variante classique, tous les grands joueurs s'accordent à dire que la variante classique est la plus complexe parce qu'elle demande beaucoup trop de compétences. Par exemple, il faut pouvoir bluffer. Parfois, tu as un tirage vraiment médique qui est pitoyable, mm-hmm. mais tu dois pouvoir faire croire à ton adversaire que tu as de quoi faire beaucoup de points. Et parfois, ça se joue. Il y a des joueurs qui sont très bons, mais qui ne savent pas lire l'adversaire, qui ne savent
lire
pas.
Lire la psychologie de l'adversaire.
Voilà, donc il y a beaucoup de. Parfois, il y a des joueurs très intuitifs qui sentent des places à bloquer alors que ce n'est pas là la priorité. Je vais vous dire, j'ai perdu le championnat du monde sur la dernière manche. Mm-hmm. Donc, nous étions à 2-2 et il fallait un vainqueur sur le dernier match contre le français Quentin Malégol. Il y avait 3 places ouvertes en ligne B, C, D. Il y avait 3 places ouvertes. Il y avait une place ouverte là et c'était là que je pouvais marquer 74 points et revenir et gagner le match. Mm-hmm. Donc, entre fermer une place et fermer 3 places, il allait fermer une place. Pourtant, j'avais, comment dire, il m'a laissé 75% de chance en termes de place, mm-hmm. mais il allait fermer le seul endroit où mon strap passait. Donc, pour jouer à ce niveau-là, il faut une sacrée intuition, il faut mm-hmm. aussi beaucoup réfléchir, beaucoup. Donc, il y a un peu de chance, il y a aussi beaucoup de.
Non, c'est le fait qu'il ferme votre jeu de ce côté-là qui a fait en sorte que vous preniez la deuxième place finalement.
Oui, c'est sur ce coup-là et c'est l'avant-dernier coup de la partie. Mm-hmm. Il a joué là-bas et ça a anéanti toutes mes chances.
Il a eu la vision.
Il a mis 5 minutes à trouver ce coup-là. 5 minutes, il a réfléchi. Il s'est dit, s'il y a un coup sur lequel je dois épuiser mon temps, c'est ce coup. Okay. Il a réfléchi.
Donc en compétition internationale, vous avez le droit de prendre tout le temps, surtout dans la variante classique, d'avoir tout le temps de réflexion.
Parce que comme je vous l'expliquais, on dispose de 20 minutes par joueur. Oui, mm-hmm. au total. Donc les coups qui vont vite, je peux les évacuer très rapidement.
Plus vous utilisez votre temps, moins vous en avez vers la fin.
Voilà, c'est ça.
Ok, d'accord.
C'est ça. Donc au début, je peux jouer très vite, mm-hmm. mais après, plus on avance dans la manche, plus il faut être analytique, plus mm-hmm. Il faut faire preuve de stratégie mm-hmm. et parfois il faut avoir encore beaucoup de temps en réserve.
Alors au-delà des titres que vous avez, parce que vous en avez énormément, est-ce que vous aimeriez adresser un message à ceux qui pensent que le Scrabble, ceux qui pensent encore jusqu'à nos jours que le Scrabble n'est qu'un jeu de société? Et aussi dites-nous, qu'est-ce que ce sport vous a enseigné d'essentiel dans la vie? Ça fait 2 questions, un message à adresser et puis ce que cette discipline nous a vraiment enseigné dans la vie.
J'aime beaucoup vos questions. Alors, le Scrabble, ça fait débat parce qu'il y en a qui disent « Ouais, c'est même pas un sport, c'est un jeu de société et tout. » Mais honnêtement, pour moi, c'est un sport. Parce que dans le sport, il y a les sports physiques, il y a les sports intellectuels. Et le Scrabble fait partie des sports intellectuels. Exactement. Récemment, on a vu une photo du président sénégalais, Bassir Diomaye Faye. Dans son avion, il allait quelque part, il jouait au Scrabble dans l'avion avec ses employés. Et mm-hmm. c'était quelque chose de vraiment remarquable. Ça a plutôt fait un bon coup de pub pour le
Scrabble.
Pour le Sénégal. Mais, donc, c'est pour dire que le Scrabble, c'est un jeu d'élite. Ça fait grandir, en fait, ça fait grandir l'homme. Ça permet de développer le vocabulaire, la combinatoire. quand je dis la combinatoire, c'est la façon de mélanger les choses, l'anticipation, parce que quand on joue Scrabble, on se projette sur plusieurs coups et ça aide même dans la vie, parce que j'ai appris plein de leçons de vie dans mes parties de Scrabble. C'est-à-dire, parfois tu penses que, notamment en classique, tu te dis que prendre le plus de points maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, alors que non, parfois il vaut mieux laisser 14 points sur un coup, jouer un coup plus faible pour pouvoir jouer beaucoup plus
devant.
Donc ce sont des petites leçons de vie. Ça apprend à être plus concentré, parce que au-delà du jeu, je suis instructeur de Scrabble auprès des jeunes. Et il y a des jeunes lycéens, collégiens que je forme, et j'ai remarqué une grosse différence chez eux, parce que au départ ils étaient très agités, très pas concentrés en classe, mais depuis qu'ils jouent Scrabble, ils sont beaucoup plus posés, ils réfléchissent mieux, et voilà. Donc il y a tellement de vertus dans la pratique du Scrabble. On calcule vite, on calcule bien, on se cultive, on apprend des choses, franchement des mots que tu n'imagines pas.
En parlant des mots qu'on apprend, est-ce que vous pouvez évaluer un tout petit peu le nombre de mots que vous connaissez après autant d'années de pratique du Scrabble?
Alors mon logiciel le fait, parce que quand je m'entraîne sur des bases, ça m'affiche le niveau de maîtrise que j'ai. Par exemple, sur les 7 lettres, j'ai atteint 100% de maîtrise.
C'est-à-dire
sur les 20... Attendez, je vous montre ça là. Enfin, pour vous qui pouvez voir en studio. Il y a à peu près 34 000... Je ne sais pas, c'est 34 000 ou 38 000. Mais sur les uniques de 7 lettres, c'est-à-dire les tirages dans lesquels il n'y a pas deux solutions. Comme je vous ai dit, dans dispute, il y a aussi stupide.
Oui.
Mais il y a des tirages dans lesquels il y a une seule solution.
Okay.
Donc sur les uniques, parce que là, il ne faut pas se manquer du tout, j'ai atteint 100% de maîtrise. Il y a 17 196 uniques. Et là, j'en maîtrise 17 196. Donc, 100% de maîtrise. Donc, maîtriser veut dire être capable de les jouer. Ça ne veut pas forcément
assez rapidement.
Ça ne veut pas dire maîtriser la définition. C'est qu'au Scrabble, on ne nous demande pas de définir ce qu'on
joue. Heureusement.
Ouais,
mais maintenant, vous avez la volonté d'apprendre certaines définitions.
Voilà. Il y a des mots, à force de les jouer, que tu le veuilles ou pas, tu vas retenir la définition. Par exemple, je vais te dire le femelo, c'est la férue de l'étambo. Je ne sais pas ce qu'est l'étambo, c'est quel...
C'est plus de 50, on va dire que c'est plus de 50 000 mots quand même que vous avez...
Au Scrabble francophone, les mots au total, c'est 400 000 mots.
Okay.
Enfin, après, quand je dis mots, ça considère manger et mangera comme deux mots. Donc, les formes conjuguées des verbes. Si on élague ça, si on enlève un peu tout ça, on est à un peu plus de 80 000 mots.
Ok. Donc, en tout cas, grâce à vous, j'ai appris deux mots récemment. Coticule et tubuline.
Ouais.
J'ai appris deux mots grâce à vous récemment. Je pense que le Scrabble, c'est une très, très bonne discipline intellectuelle, surtout quand on veut avoir une certaine maîtrise, une certaine concentration. Voilà. Ok, d'accord, le message finalement à ceux qui nous écoutent, parents, enfants, ce serait quoi ce matin?
Alors, mon message va être très simple, ça va être les jeunes, les enfants, surtout, intéressez-vous aux choses qui font grandir l'esprit, qui font grandir l'âme, qui font grandir la personne. Donc, je recommande, au-delà des études, déjà appliquez-vous à vos études, parce que ça va vous aider toute votre vie. Au-delà des études, pratiquer une activité sportive et une activité intellectuelle. Ça peut ne pas être le Scrabble. Le Scrabble, c'est bien, ça peut être les échecs, ça peut être autre chose. Mais essayez d'avoir quelque chose qui vous occupe sainement, qui occupe sainement l'esprit en vous faisant grandir. Parce qu'on voit, j'ai vu, il y a trop de déviations, il y a trop de fléaux qui minent la jeunesse. Il y a la délinquance grimpante, les drogues en milieu scolaire, ce genre de choses. Et je me dis, pratiquer une activité comme le Scrabble permet de contenir un peu l'enfant, de le mettre à l'écart de tout ça. Et j'ai vu plein d'exemples, j'ai vu des enfants que je forme que le Scrabble a tiré de la délinquance. Donc il y a plein de vertus à jouer au Scrabble. Les parents, encouragez vos enfants, même de façon subtile. Parfois quand l'enfant se voit imposer quelque chose, il n'a pas envie de le faire. Mais si un parent achète une grille de Scrabble et la laisse à la maison, un jour ou l'autre, les enfants vont commencer à s'amuser avec, vont faire des défis. Genre, moi, je trouve un mot plus long que le tien, tu vois. Même s'ils ne savent pas jouer, ça va les stimuler.
C'est la même chose pour la lecture. On a un enfant qui a envie de lire parce que son parent lit ou achète des livres.
J'allais en brancher sur la lecture. Il faut lire, beaucoup lire. Lire. Parce que j'ai remarqué qu'au fil des années, l'orthographe devient catastrophique chez les jeunes. Nous sommes loin de l'époque nous sommes bien loin de l'époque où, enfin, elle est lointaine l'époque où les enfants avaient des 20 suivants en dictée. Déjà, la dictée a été supprimée, apparemment, c'est la correction orthographique. Donc, c'est un peu dommage tout ça, mais l'IA ne va pas tout faire. Même pour bien utiliser les IA, il faut avoir un certain niveau
une certaine connaissance.
Il faut avoir un certain bagage. Donc, j'exhorte vraiment les jeunes à aller vers des choses qu'ils cultivent.
Voilà. Vous avez un peu évoqué l'aspect instruction, l'aspect apprentissage, puisque vous avez des jeunes que vous tenez, à qui vous enseignez la pratique du Scrabble. Donc, ma question, c'est quel est le rôle que vous souhaitez jouer dans l'essor du Scrabble sur le continent africain, notamment auprès de la jeunesse camerounaise que vous suivez?
Ah ouais. J'ai jamais...
Les ambitions ne sont pas aussi grandes à ce niveau-là?
Enfin, je veux dire, je me suis jamais dit je veux être ceci, okay, cela, mais plus je pratique ma discipline, plus je me rends compte que certains me considèrent comme me prennent pour leur modèle, pour plein de raisons. Donc j'en suis honoré, mais j'ai jamais eu cet objectif-là d'être la référence, d'être.
Okay.
Peut-être dans le jeu, oui, parce que je vais être numéro un dans le jeu. Mais après, dans tout ce qui est à côté, je veux. Moi je souhaite. Je souhaite, déjà à mon niveau personnel, vous avez dit au-delà des titres, mais j'ai envie de dire, les titres, ça n'en finit pas. Je me suis dit, je veux être champion du monde. Quand on a, pour les alpinistes, pour ceux qui gravissent les montagnes, quand on a fait le Mont Cameroun, on a envie de faire le Kilimandjaro.
Exactement.
Quand on a fait le Kilimandjaro, on a envie de faire l'Everest.
L'Everest.
Même quand on est dans l'Himalaya, si on a fait le K2, on va pas dire que j'ai fait le deuxième... j'ai fait le deuxième mont le plus haut du monde. Je veux faire l'Everest aussi, qui est le mont le plus haut du monde. Donc je veux être champion du monde. Et sachant qu'en duplicate élite, aucun Africain noir n'a jamais remporté en 50 ans de pratique. J'ai été à ça l'an dernier, à un coup d'être champion du monde, le premier Africain noir champion du monde. Je l'ai fini quatrième, à 12 points derrière le premier, ayant perdu 24 points sur un coup. Et cette année encore, j'étais quatrième. Donc, je me dis, je dois être champion du monde. Probablement en duplicate, parce que c'est la variante que je brille le plus. En classique, quand j'étais vice-champion du monde, c'était un peu une surprise parce que personne ne m'attendait à ce niveau. J'avais jamais fait un podium en classique en tournoi majeur. Donc, c'est arrivé cette année. Mais pour moi, les objectifs, il y en a toujours. D'abord dans le sport. Ensuite, je veux susciter pas une amie, mais je veux susciter beaucoup de vocations auprès des jeunes, beaucoup de champions. Quand on est au championnat du monde, il y a plusieurs catégories d'âge. Ça va de 8 ans à 75 ans. Il y a même des vieux de 80 ans. Il y a des catégories d'âge. Donc, il y a des champions juniors, des champions poussins, des champions seniors, des champions rubis, vermeils et tout. Et le constat est triste. On n'a pas beaucoup d'Africains, de Camerounais, de Noirs.
À ce niveau-là.
Dans les catégories juniors. Donc, moi, je me dis, on va former la jeunesse. Et la FEDE, j'ai fait des propositions à la FEDE. Et la FEDE aussi a mené des actions dans ce sens. On a un vivier de jeunes joueurs, de lycéens, de collégiens qu'on forme. Et les meilleurs iront au championnat du monde l'année prochaine à Tunis. C'est déjà une avancée. Donc, moi, je veux être celui-là qui, voilà, les guide, les accompagne, les inspire. Parce que, et je sais, il y a déjà plein de jeunes. Et c'est pas qu'au Cameroun, il y a des jeunes... Du tout le continent, il y a le jeune Brini Maturidi, un Congolais de 18 ans, qui a eu 18 ans cette année, qui a eu le bac cette année, qui est allé au championnat du monde avec nous. À Trois-Rivières, il a remporté le défi mondial des jeunes. Pour la première fois, un Africain le remporte depuis 20 ans, parce que c'était en 2005 la dernière fois. Et il a été honoré dans son pays, il a été fait officier de l'ordre de la... officier de l'ordre de la valeur au Congo. Il a été décoré par Sassou Nguesso lui-même. Il a eu une bourse d'études après son bac grâce au Scrabble. Donc il est un modèle, un héros national. Il est devenu très populaire au Congo grâce au Scrabble. Et je me dis, on a moyen de multiplier ce genre d'exemples en Afrique. Et si je peux y contribuer, tant mieux.
D'ailleurs, la Fédération Camerounaise de Scrabble, vous l'avez dit, travaille ardemment pour que ceci soit fait. Vous avez un peu embrayé sur ma dernière question, qui était de savoir quel était votre prochain objectif. J'allais dire non pas en termes de titre, mais je vois qu'on part titre, parce que votre prochain objectif sera sûrement d'être champion du monde épreuve duplicate, parce que vous excellez dans cette variante-là. Mais sur le plan personnel, est-ce que vous avez un objectif particulier?
Déjà remporter le tournoi de ces jours-ci.
D'accord.
Qui se termine demain. J'espère bien continuer.
Mais que du professionnel.
Et remporter. Mais non, après, non, là c'était dans l'immédiat, mais okay. Là c'est l'ouverture de la saison. Il y a une saison qui s'ouvre.
Avec
l'Open. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Et voilà, maintenir mon statut numéro 1 africain. Je suis dans le top 10 mondial, là, au classement mondial. Je suis 8e mondial. Augmenter, monter en termes de classement mondial. Pourquoi pas top 3, top 4, je sais pas. Et pour, en dehors du jeu, continuer à former des jeunes, à en inspirer. Même si j'aurai un peu moins de temps cette année. Je l'ai déjà fait savoir à quelques jeunes que je forme dans mon ancien lycée. Je leur ai dit, je vais pas être très présent cette année parce que j'ai des contraintes professionnelles. Parce que, en même temps, j'essaye de relancer un peu ma carrière. Pas forcément. Voilà, j'ai des activités en freelance à côté, donc okay. J'aurai pas autant de temps qu'avant, mais je vais essayer de continuer d'être présent pour les jeunes. Et, voilà, c'est. En fait, je veux dire, quand le scrap m'a tant donné, ça ne me coûte rien. Je veux dire, c'est un privilège, c'est un honneur et c'est même un devoir de rendre à la communauté ce que j'ai reçu. Donc. Okay.
Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous, Tina.
Si, un mot de fin, quelque chose à dire, je ne sais pas, des gens à saluer, la Fédération Camerounaise de Scrabble, des
bien
personnes
évidemment.
En particulier,
bien
avant qu'on se dise au revoir.
Bien évidemment, je fais un gros coucou au président de la Fédération, M. Amédée Assomon, au coach des Lions Indomptables, M. Paco Bahanak, au président d'honneur de mon club, Père Chuling, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui m'a beaucoup soutenu dans la discipline. Et à tous mes coéquipiers du Harmonie Scrabble Club à Yaoundé, je fais un gros coucou. Et j'invite les nombreux auditeurs à. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, je suis surtout sur Facebook. Les nouveaux réseaux là, j'arrive pas à y accrocher. Donc, KJC, comme King Josaphat Showa, KJC champion de Scrabble sur Facebook. C'est ma page. Je livre des astuces, pas. Dessiner parfois aux débutants, parfois aux champions. Mais en tout cas, je raconte ma carrière de scrap là-bas aussi. Quand je suis en tournoi, je fais des publications. Un peu moins ces derniers temps, mais je vais recommencer bientôt.
Il faut recommencer.
Ouais.
En tout cas,
donc, je vous remercie.
Merci à vous, merci à vous, merci beaucoup. Et on vous souhaite encore plein de titres parce que j'ai envie de dire que vous venez de commencer votre carrière parce que vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Donc, on va vous souhaiter que le meilleur.
Merci, Tina. Un bon
rock. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Aujourd'hui, dans Sportsy, dans l'Inso Sport, nous allons la découvrir. Découverte d'un sport hors du commun. Il s'agit du monocycle hockey. Et bien sûr, c'est dans Inso Sport, dans quelques minutes seulement. Nous allons nous quitter, mais en attendant, on fait ce petit arrêt.
Les disciplines sportives les plus insolites, c'est dans Inso Sport.
Bonjour, Inso Sport de ce samedi vous emmène à la découverte du unicycle hockey ou hockey sur monocycle. Vous en avez déjà entendu parler ? Non ? Ok. Le unicycle hockey est un sport collectif qui combine le plaisir du hockey avec le défi du monocycle. Dans le unicycle hockey, les joueurs se déplacent sur des monocycles tout en essayant de marquer des buts avec une crosse et une balle. Tout comme dans le hockey traditionnel, ce sport demande un bon équilibre, de la coordination et surtout des compétences en patinage sur deux roues. Les joueurs utilisent des monocycles adaptés, des crosses de hockey et une balle. Des protections sont aussi nécessaires, notamment une genouillère, des coudières ou un casque. Le jeu se déroule généralement sur un terrain de hockey standard ou dans une salle de sport délimitée par des lignes. Deux équipes s'affrontent alors généralement, composées de 4 à 6 joueurs chacune. Le nombre de joueurs peut varier selon les règles établies pour chaque match. Les règles sont similaires à celles du hockey sur glace ou du hockey sur gazon, avec des passes, des tirs au but et des arrêts de jeu pour les fautes. Jouer au hockey sur monocycle nécessite non seulement des compétences en hockey, mais aussi une maîtrise du monocycle, parce qu'il faut avoir de l'équilibre. Les joueurs doivent être capables de manœuvrer tout en restant équilibrés. Pas évident, mais c'est comme ça. Comme pour beaucoup de sports collectifs, le unicycle hockey favorise l'esprit d'équipe et permet aux participants de s'amuser ensemble tout en développant leurs compétences. Bien que le sport puisse sembler difficile au départ, il est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre à faire du monocycle. De nombreux clubs, d'ailleurs, organisent des sessions d'initiation. En parlant de sécurité, le unicycle hockey peut comporter des risques en raison des chutes potentielles liées à l'utilisation du monocycle. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un équipement de protection adéquat et aussi d'apprendre les bases du monocycle avant de se lancer dans ce jeu. Le unicycle a été popularisé dans plusieurs pays, notamment en Europe, et il existe même des compétitions internationales, vous imaginez ? Certaines équipes adoptent des thèmes ou des coutumes amusantes pour leurs matchs, ajoutant ainsi une touche festive à chaque événement. En somme, le unicycle hockey est un sport amusant qui combine la passion du hockey et le défi du monocycle. C'est une excellente façon de rester actif tout en s'amusant entre amis ou en rejoignant une communauté sportive. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir aujourd'hui sur le unicycle. Merci et à la semaine prochaine.
Rendez-vous la semaine prochaine quand il sera exactement 10h30. En attendant, nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci à Martin Luther-Py et merci à vous aussi de nous rester fidèles et de rester connectés au programme de Volume 3.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.